BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h, passé de 1 minute. Notez bien le nouvel horaire des experts tous les jours sur BFM Business. C'est désormais 9h30, 10h30 avec toujours autour de la table Thomas Grébin, responsable du programme Macroéconomie et Finances Internationales au CEPI, Ryan Nézard, professeur à Sciences Po, et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Bon, on a beaucoup parlé budget durant toute la première partie de l'émission. Je voulais qu'on parle des droits de douane, peut-être. Thomas, en deux minutes, simplement, nous expliquer, c'est le challenge du jour. Jeudi dernier, le tribunal de commerce international, c'est pas la Cour suprême, hein, c'est le tribunal de commerce international des États-Unis qui a invalidé les 10% de tarifs que Donald Trump avait mis à absolument tout le monde. On a l'accord US-UE qui n'est plus appliqué non plus. On est paumé dans ces droits de douane. Je voudrais avoir le témoignage de Laurent après, qui exporte aussi aux États-Unis. Mmh. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce grand maelstrom douanier entre l'Europe, la France et les États-Unis ?
On en est dans une situation où Donald Trump cherche toujours de nouvelles formules juridiques pour passer ses droits de douane. Donc là, ce qui a été invalidé, c'est ce qu'il avait proposé en février, où il avait sorti une vieille loi des années 70 qui pouvait être appliquée s'il y avait un déficit de la balance des paiements. Alors le tribunal que vous avez mentionné a considéré qu'on n'était pas dans la situation mentionnée par ce texte, parce que ce texte était à une époque où le dollar était indexé à l'or. Or, aujourd'hui, ce n'est manifestement pas le cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump a déjà prévu de nouveaux instruments juridiques qui pourraient être utilisés. Notamment, il y a un texte sur les représailles présidentielles qui pourraient être pris. Puis après, il y a une autre disposition.
Et qui là sont très sectorielles, c'est-à-dire qu'on cible tel ou tel produit.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, la Cour suprême n'a pas répondu sur le fait que constitutionnellement, le président ne pouvait pas prendre des mesures qui sont du ressort du Congrès. Et on voit bien dans les décisions juridiques qui ont été prises, c'est chaque fois ils jugent sur les décisions spécifiques en se demandant est-ce que le texte particulier est bien motivé. Mais donc ça permet à Donald Trump et à son administration de trouver de nouveaux instruments juridiques pour faire passer ses droits de douane. Et peut-être juste un dernier point, c'est qu'on a toujours l'impression que Donald Trump, il y a des allers-retours, ce qui est vrai en partie, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le droit de douane moyen, par exemple, le droit de douane moyen effectif appliqué par les États-Unis a quand même augmenté de plus de 10 points par rapport au début de son second mandat. Donc, il y a bien une augmentation significative des droits de douane. Et même quand on parle de la Chine, alors certes, le droit de douane effectif, il est plus à 50% comme il y a quelques mois, mais il est toujours un droit de douane autour de 30%. Donc, il y a des allers-retours, mais Donald Trump réussit quand même, entre guillemets, à augmenter significativement le taux de droits de douane moyen effectif.
Donc, la guerre commerciale a bien eu lieu. Même si le commerce international a augmenté en 2025. Laurent, vous êtes une entreprise exportatrice, notamment aux États-Unis. Vous êtes bon conseiller là pour gérer tous ces yo-yo réglementaires.
Mais les conseillers ont besoin de conseillers. Donc, si vous voulez, personne n'en sait rien. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer, c'est que les acteurs économiques, donc de part et d'autre de l'Atlantique, ont compris que aujourd'hui on était dans un monde particulièrement incertain à ce niveau-là, et que finalement il faut essayer de donner vie au projet. Puis après, on va gérer au fil de l'eau, parce que bien malin est celui qui sait prévoir si on va être à 10, à 15, à 35. Puis alors je vous passerai l'explication de texte sur les catégories, hein, avec des catégories chapeaux extrêmement larges. Donc nous, on est métaux ferreux, vous voyez, on exporte des machines, des biens d'équipement, on est là-dedans. Bon, donc globalement, je dirais qu'on essaye tant bien que mal de maintenir le volant d'affaires, ne sachant pas ce qui va se passer et en se disant finalement on va gérer les choses au fil de l'eau. Par contre, là où monsieur a évidemment raison, c'est que la facture, elle a bel et bien augmenté. Alors maintenant, la question, c'est pas de savoir si elle va augmenter, c'est de savoir de combien et quand. Et si ça va être invalidé ou pas
invalidé. Oui, et puis de qui supporte la hausse ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez passé la hausse des prix sur vos clients ? Est-ce que vous avez pris sur vos marges ? Parce que c'est le distributeur sur place.
Ce qui se passe, et c'est très intéressant, c'est que 95% des hausses de taxes ont été payées par le consommateur américain. Donc, quand M. Trump dit qu'il a rendu service à son pays, bah, écoutez, je laisse seul juge les mêmes citoyens américains et contribuables. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous exportateurs aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire que nous exportons dans un pays, c'est pas nous qui faisons les lois. Donc évidemment, on a des discussions commerciales qui, vous l'imaginez, ne manquent pas de verve. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin, en plus de ça et du reste, d'avoir, en plus, dans notre propre pays, d'avoir des discussions et la certitude fiscale.
Bon. Allez, il faut qu'on avance, on est un peu... Thomas, une petite réaction, mais rapide.
Il est bien le sujet.
C'est la natalité.
Non, mais c'est vrai que c'est le consommateur américain qui paye les droits de douane sur les importations.
Mais on l'a vu, ça, vraiment. L'inflation n'est pas... Elle est à quoi, 3% aux États-Unis?
Elle est moins que prévu, parce qu'en particulier, il y a eu des effets de stockage en début d'année. Mais c'est, ce que je veux dire,
c'est
que
c'est
aussi... Ça risque d'être à venir, oui. Mais c'est en partie l'objectif poursuivi. Quand vous mettez des droits de douane, l'objectif, c'est de surenchérir les importations pour produire sur le sol américain. Oui, donc le fait que les produits chinois coûtent plus cher pour le consommateur américain, c'est le but. Parce que s'ils ne coûtaient pas plus cher, vous n'auriez aucune incitation à produire, par exemple, les voitures sur le sol américain. Donc c'est un peu dans le discours le fait qu'on dit toujours « oui, mais Donald Trump se trompe ». Parce que ça surenchérit le prix pour le consommateur américain. Moi, je dirais que c'est justement le but de ce type de droits de douane.
Ryan. Juste, il y a un autre pays européen qui est principalement confronté à cette guerre commerciale, c'est l'Allemagne. Si la surtaxe de 25% qui a été annoncée par l'administration américaine s'applique à partir de juillet sur le secteur automobile, je vais me rappeler que c'est 500 000 de voitures allemandes qui sont exportées chaque année aux États-Unis, et c'est leur premier marché à l'exportation. L'industrie allemande est aujourd'hui confrontée à la nouvelle vague de concurrence chinoise. Donc, on a les débats, évidemment, sur l'impact sur l'économie française, que ce soit sur l'industrie, sur l'agriculture ou sur les services, mais aujourd'hui, le premier pays qui va subir cette guerre commerciale en Europe, c'est l'Allemagne.
Allez, je voulais qu'on avance sur la natalité avec cette étude du Haut Commissariat au Plan qui résume bien. Alors, il n'y a pas d'annonce fracassante, mais c'est une très très bonne synthèse des enjeux économiques qui reposent sur la bombe démographique que nous sommes en train d'expérimenter. Je rappelle que l'année dernière, en 2025, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. Cette note rappelle un peu tous ces enjeux avec ce chiffre. Moi, j'avais envie de partir là-dessus. Et Ryan, je commence avec vous, puisque c'est l'un de vos tweets qui m'a alerté sur cette étude. C'est l'envie d'enfant qui est là chez les Français, chez les jeunes Françaises et les jeunes Français qui souhaiteraient avoir 2,3 enfants en moyenne chez les jeunes générations. Sauf que le taux de natalité s'est effondré, lui, entre... En 10 ans, hein, 2014-2025, on est passé de 2 enfants par couple à 1,56. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette décennie, Ryan?
D'abord, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ça tord le cou à l'idée que les jeunes générations ne voudraient plus d'enfants. En réalité, elles en veulent, mais il y a un certain nombre de causes qui font que...
De contraintes, moins, on va y venir.
Le niveau et la stabilité des revenus, évidemment les coûts du logement, la qualité de l'emploi, et puis plus largement forme de défiance dans l'avenir. Donc c'est tous ces facteurs, alors c'est débattu dans la littérature scientifique, mais c'est tous ces facteurs qui contribuent à cette dénatalité. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que ça n'est pas un phénomène franco-français.
Oui, on n'est pas seul, hein, évidemment.
Absolument pas. En fait, aujourd'hui, la moitié des pays dans le monde sont déjà en dessous du seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1, et donc ont un indice de fécondité qui est inférieur, la moitié des pays dans le monde. Et l'Europe, évidemment, un des taux les plus bas, on est à 1,4 en moyenne. Donc on voit, pour résumer les choses, que la France a encore quand même un indice
de fécondité
supérieur à la moyenne européenne. Je veux quand même dire en troisièmement que tout ceci est un vrai problème. Là, le débat dans notre société est en train de monter sur cette question de la démographie, de la natalité.
Enfin.
C'est un immense problème pour notre pays, et à commencer par notre modèle social, parce qu'on a une population qui vieillit d'un côté, et un nombre de naissances, vous l'avez dit, qui pour la première fois l'an dernier, en 2025, a été inférieur au nombre de décès pour la première fois depuis 1945. Donc, on ne peut pas financer dans la durée notre modèle social, on va dire, à l'européenne, avec cette démographie-là. Donc, c'est un vrai problème. La note, ensuite, esquisse quelques pistes de réflexion. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça permet quand même de refixer un certain nombre d'idées. D'abord, en France, 2/3 de la politique familiale, si je parle en termes de budget, 2/3 de la politique familiale, ce sont des transferts monétaires, des allocations familiales, des allègements fiscaux, etc.
Et ce n'est pas une paille. Peut rappeler les quantums. Hein.
Oui, c'est 60 milliards au total si on prend les dépenses et le quotient familial.
On est un des pays les plus généreux au niveau européen.
Oui, mais on n'est pas beaucoup plus au-dessus de la moyenne. En fait, tous les pays européens sont autour de ce chiffre, sauf la Hongrie, j'en parlerai. Mais en tout cas, on dédie 2/3 de ce budget à des transferts monétaires. Or, ce que montre l'étude, c'est que ces transferts, ils ont un effet, certes, sur la natalité, mais assez modeste. En fait, ce qui a le plus d'effet pour encourager la natalité et réduire cet écart entre le désir d'enfant d'un côté et le nombre d'enfants constatés de l'autre, c'est le fait d'avoir des congés parentaux qui soient plutôt courts pour pas défavoriser l'emploi des femmes, bien indemnisés pour encourager aussi la natalité chez les niveaux de salaire élevés et qui soient partagés entre les parents. Et c'est d'autre part d'avoir une offre de mode de garde suffisamment abondante et suffisamment adaptée.
Mais plutôt court, pardon, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait. On n'arrête pas de rallonger les congés parentaux.
Il y a eu une réforme là, qui va entrer en vigueur cette année du congé de naissance qui a plutôt tendu à réduire la durée du congé parental et augmenter l'indemnisation, mais ça va entrer en vigueur en juillet. Donc pour résumer, si on veut vraiment encourager la natalité, il faut travailler sur le mode de garde.
Oui.
Aujourd'hui, il y a quand même un peu moins de la moitié des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas d'offre de garde en crèche ou avec des assistantes.
Est-ce que la baisse de la natalité est une bonne nouvelle du coup, s'il y a moins de bébés, il y a plus de places en crèche, non?
Oui, mais non, en fait, il n'y a pas les personnels. Il y a de toute façon une pénurie de personnel et 1/3 de ces personnels qui va partir à la retraite dans les 5 années qui viennent. Ah. Donc, de toute façon, il faut réinvestir sur ces modes de garde. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes et c'est bon pour la natalité. Et il faut ensuite moderniser les congés et travailler sur la politique du logement. Si on fait ça, on n'est pas garanti d'augmenter. On n'a pas de garantie d'augmenter notre natalité, mais on peut peut-être arrêter de baisser.
Bon, j'ai pas l'impression que ce soit des sujets qu'on traite encore beaucoup. Hein. En tout cas, si on parle du logement, ça reste très compliqué, Thomas Grébin.
Ça fait un peu penser avec tous les débats sur la réindustrialisation. Autant on sait désindustrialisation...
Réarmement autant, démographique.
Autant réindustrialiser, il n'y a pas de recette miracle et il y a toute une palette d'instruments qui peuvent être mobilisés. Ce qui me semble intéressant pour aller en complément de ce que vient de dire Ryan, c'est d'une part, bon, sur les modes de garde, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a eu, depuis 2023, il y a eu beaucoup plus d'argent qui ont été mis sur la table, près de 2 milliards d'euros. C'est pas ça qui a augmenté les places en crèche. Et donc là, il y a une question qui renvoie un peu au début de notre débat. C'est pourquoi les maires, en particulier, ne construisent pas plus de places en crèche. Et ça renvoie, est-ce qu'ils préfèrent pas construire, par exemple, des EHPAD quand ils ont le choix? Et donc là également, c'est le choix de société. Quelle priorité économique on donne à notre pays?
On préfère construire des EHPAD plutôt que des crèches dans les... Alors les deux sont absolument nécessaires, hein, au vu du vieillissement du pays. Mais enfin, quand on est un maire, on a envie de faire vivre son village, on a envie qu'il y ait des écoles, on a envie qu'il y ait des enfants.
Ça dépend de la démographie du village. Le deuxième point, c'est comment on fait, notamment parce qu'il y a un problème sur les modes d'accueil, c'est pour revaloriser les personnels. Et donc là, il y a un gros problème de revalorisation de locaux. Donc, un débat qui est un peu sous-jacent, c'est est-ce qu'on utilise une partie de cet argent des allocations familiales pour réallouer en partie pour financer davantage les modes d'accueil ou les revaloriser les professionnels.
Ouais.
Donc ça, c'est un débat qui est un peu chaud politiquement. Mais ce qu'on peut penser, c'est qu'on peut faire des ajustements. Par exemple, s'il y a des maternelles ou des écoles élémentaires où il y a moins d'enfants, peut-être qu'on peut réutiliser ces locaux pour par exemple, faire des modes d'accueil. C'est le premier point.
C'est pas interdit d'être pragmatique.
Voilà. Le deuxième point, ce qui me semble intéressant dans cette note du plan, c'est des comparaisons européennes. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'un pays qui fonctionne bien comme la Suède, où la différence entre le taux d'activité des femmes et des hommes est beaucoup plus faible. On est autour de 3-4 points, alors qu'en France, on est autour de 8 points.
Ah oui.
Qu'est-ce que font les Suédois? C'est ils rémunèrent bien davantage le congé parental pour les pères. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Si on veut rééquilibrer, il faut beaucoup plus rémunérer le congé parental pour les pères. Et donc, par exemple, forme de taux de remplacement sur le salaire pour le congé parental en Suède, il est près de 80%, alors que nous, si on fait l'équivalent de notre congé parental, il est autour de 13%. Donc évidemment, vous avez une désincitation énorme pour les pères en France à prendre ce congé parental. Et donc, ça, évidemment, si les pères ne prennent pas de congé, ça crée un déséquilibre, oui, notamment sur l'emploi des femmes.
Et d'autant plus qu'il y a un travail culturel à faire, puisqu'on sait qu'on a rallongé le congé parental des pères, mais que une majorité ne le prend pas complètement, loin de là. J'ai des vieux chiffres en tête, mais Laurent Vonsky.
Alors moi, ce débat me rappelle le débat sur l'épargne. Ah. Oui, je pense qu'il y a un vrai parallèle, c'est-à-dire que depuis maintenant des décennies, on sait que la France est l'un des pays de l'OCDE qui accumule le plus d'épargne, oui. Et tout le monde se gratte la tête, politique en tête, pour dire mais comment on va faire pour mettre la main sur cette épargne, ou comment est-ce qu'on va faire pour inciter les Français à utiliser cette épargne pour injecter ça dans l'économie réelle ? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne peut pas légiférer là-dessus, parce que l'épargne, quelque part, c'est l'indice de la peur, ou l'indice de l'anxiété. Si, alors moi, je vais être un peu philosophique, ces messieurs ont parfaitement raison, ce sont des mesures techniques. Et on peut prendre des mesures techniques sur l'épargne également, sauf que si, à la fin de la journée, vous ne croyez pas en l'avenir, si vous ne croyez pas dans votre pays, si vous ne croyez pas dans l'avenir de vos enfants, si vous ne pensez pas que dans votre propre pays, vos enfants seront bien éduqués, auront un travail, pourront accéder à un certain niveau de confort, on peut faire toutes les lois du monde, tous les congés parentaux, tous les ajustements paramétriques, etc. Les gens ne le feront pas. Je vais prendre un exemple très simple. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on a fait une loi qui a dit, maintenant, attention, obligatoire, tout le monde doit faire des enfants dans les 9 mois? Non. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le baby boom? Moi, je fais partie du baby boom. Pourquoi il y a eu le baby boom? Est-ce que les gens, tout d'un coup, il y a eu cette espèce de vague, si vous voulez, d'enthousiasme où les gens avaient mis la guerre derrière eux, il fallait reconstruire le pays, c'était, si vous voulez, la foi en l'avenir. La mauvaise nouvelle, me semble-t-il, c'est que si vous voulez, maintenant, je veux dire, l'avenir, on n'en parle quasiment pas, on est sur une échelle de temps qui est extrêmement raccourcie. Et si vous voulez, vous regardez la société avec un grand S, vous avez des mouvements très anxiogènes. Oui. Donc, je pense que le devoir, j'en terminerai avec ce propos, c'est comme dans une entreprise. Je veux dire que si vous voulez, on a découvert que tout d'un coup, pour qu'il y ait plus de productivité, il fallait que les gens se sentent bien. Mais pour que les gens se sentent bien, on ne peut pas faire de loi. C'est vous qui créez une forme de choses immatérielles. Eh bien, la société avec un climat, c'est la même chose.
C'est exactement ce que dit Davidia. Vous pouvez réagir sur Twitter, n'hésitez pas. Hein. Si on veut que les jeunes couples fassent des enfants, bah, il faut aussi arrêter de les terroriser avec le catastrophisme écologique pour Davidia. Alternance s'interroge. Question sérieuse, comment générer de la croissance et rembourser de la dette avec une natalité en baisse? Et oui, c'est évidemment des questions macroéconomiques majeures, puisqu'on a donc des actifs et des consommateurs en moins. Une réaction à Thomas Grébin.
Non, je suis d'accord, mais il y a quand même un bémol, c'est que quand on regarde des pays comme la Chine ou la Corée du Sud qui ont des politiques, pour le coup, natalistes extrêmement offensives avec des aides au logement, il y a même des formes de services publics, j'allais dire de la shop, mais c'est un peu une façon vulgaire de faire, mais en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire même les pays qui ont une planification beaucoup plus forte, oui. Qui ont des perspectives de croissance plus fortes, qui ont des mesures natalistes beaucoup plus fortes, en fait, n'arrive pas à enrayer la tendance. Donc là, il y a quelque chose même qui dépasse malheureusement même les perspectives de la société française ou européenne. C'est un phénomène
qui dépasse
mondial,
tous les pays. Hein. Mais il n'y a pas de fatalisme. Ce qui explique très bien Maxime Bailly dans Les balançoires vides. Hein.
Je pense Ryan Neza. Pardon de dire comme ça. Je pense qu'on se trompe un tout petit peu de diagnostic. Ce que montrent justement ces travaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a un désir d'enfant dans la société française. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, cette anxiété, cette peur de l'avenir qui est entretenue dans le débat public, et je suis complètement d'accord pour dire que c'est quelque chose qui pèse sur le quotidien des Français, elle n'entame pas le fait que les Français continuent à vouloir faire des enfants et à avoir des familles qui s'agrandissent. C'est ce qu'on disait, 2,3 enfants, c'est le désir pour un foyer si aujourd'hui vous demandez à des jeunes générations combien d'enfants ils veulent avoir. Le problème, et c'est pour ça que je pense qu'on se trompe de diagnostic en pointant la focale sur le désir d'enfant, oui. Le problème c'est que les familles n'arrivent pas à en avoir, pour toute une série de raisons. Le coût du logement, ce que l'on évoquait tout à l'heure, la question des revenus, le niveau de revenus, la stabilité des revenus. Et in fine,
tout est lié.
Je pense que la politique familiale doit, pour les prochaines années, redonner le choix à des familles, à des couples, à des parents de faire des enfants. Et ça passe en effet par baisser les coûts du logement, avoir un logement abordable, accessible, et pas à 200 km de chez soi. Ça passe aussi, on parlait des modes de garde, j'illustre simplement en disant que les familles aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, 4 sur 5, lorsqu'elles ont des enfants, les gardent à la maison. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes d'emploi si on n'a pas une offre de mode de garde suffisante. Et puis, enfin, ça passe aussi par des politiques de santé publique. On n'en a pas encore parlé, mais en matière de lutte contre l'infertilité, d'accès à la PMA, toutes ces politiques publiques doivent aussi contribuer à soutenir la natalité. Quand les familles souhaitent faire des enfants, il ne s'agit pas de l'imposer. On voit bien que les pays qui ont cherché à le faire, ça ne marche pas. On peut penser à la Hongrie, par exemple, qui est en fait dans la moyenne européenne et pas au-dessus. Mais en tout cas, il faut redonner ce choix aux familles de faire des enfants, ce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas toujours.
Et oui, les voies et moyens. Un dernier mot très rapide, oui, qu'on parle de l'IA, il nous reste 5 minutes.
Je pense, je l'ai clairement expliqué, je veux dire que je dis simplement qu'on ne peut pas pour relancer la natalité, mettre en œuvre des lois. Ça ne il n'y a pas que ça. Donc évidemment, tout ce que vous avez
cité, c'est de la confiance en l'avenir.
Bah oui, mais c'est confiance
en l'avenir.
Attendez, juste une petite chose et on va reboucler avec le premier sujet. Moi, mais je suis pas un spécialiste de la chose, mais je connais des chefs d'entreprise qui sont dans le métier des crèches. Bien, il faut savoir que dans le domaine des crèches, vous avez deux univers. Vous avez les crèches publiques et les crèches privées. Et que d'après ce que j'ai compris, c'est que pour opérer des crèches privées en France, c'est un véritable enfer. Pourquoi ? Parce qu'en clair, il y a une espèce de guerre dogmatique, comme dans l'éducation d'ailleurs, où on considère qu'il n'y a que l'État qui est légitime pour créer des crèches. Donc peut-être que là aussi, il faudrait peut-être revoir le logiciel pour pas seulement inciter les maires à construire des crèches et les EHPAD, mais rendre les choses plus simples, parce que dans un village où vous avez 300 habitants, bah, c'est peut-être plus simple de créer une crèche privée locale qui va accueillir une vingtaine d'enfants. Donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes.
Bon, simplification aussi. Allez, un dernier mot, il nous reste malheureusement trop peu de temps pour parler d'un sujet absolument majeur qui est celui de l'intelligence artificielle. On en parle très régulièrement sur cette antenne. On publie aujourd'hui sur l'antenne un sondage via Voice HEC Paris, BFM Business et L'Express. Alors sur le moral des Français, on va passer sur le côté moral des Français. Il est évidemment à un record de faiblesse depuis 2008. On comprend aisément pourquoi, mais on les a interrogés sur l'intelligence artificielle qui constitue une menace pour 42% des décideurs. C'était 34% en novembre 2004, donc on voit que l'angoisse vis-à-vis de l'IA étant très nette haute. C'est la même chose pour les actifs en général. 47% estiment qu'il s'agit d'une menace. C'était seulement 25% en novembre 2024. Est-ce qu'il faut croire les... Alors c'est un papier du Figaro que j'ai vu aujourd'hui, Anne de Guigné nous parle, des apôtres de la job apocalypse. Est-ce qu'il faut y croire, Laurent Wonski ?
Alors, il n'y a pas de réponse universelle. Donc, je suis désolé, je vais être un peu nombriliste, je vais parler de mon métier. Donc, oui. Moi, je suis industriel et on fabrique des machines sur mesure. Donc, les deux éléments sont importants. Je pense que dans notre métier, l'IA va être une opportunité absolument extraordinaire. Je ne crois pas un instant que la semaine prochaine, ChatGPT va construire les compresseurs à notre place. Je pense que ça va être la revanche des métiers manuels. Alors, d'aucuns diraient, mais oui, mais un jour, il y aura des robots qui
vont... Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Il y a des robots qui vont croiser l'IA. Pour changer le joint de la bonde. Alors, écoutez, oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr que moi, je le verrai de mon vivant. En attendant, c'est clair qu'il va y avoir une vraie dichotomie entre, et c'est assez tragique, des jobs dits d'avenir. Par exemple, aujourd'hui, 75% du développement informatique se fait par l'IA. Mais nous, aujourd'hui, on va se servir de l'IA comme une aide pour nous aider à mieux fabriquer le produit. Je n'ai pas dit qu'on allait mettre des robots, mais on va vraiment être, si vous voulez, le bon exemple de l'homme augmenté. Donc la réponse à votre question, oui, c'est synthétique, c'est que ça dépend des secteurs. Eh oui. Les secteurs qui sont très mécanisés le seront encore plus. Ceux qui sont très manuels, non, je pense que l'impact sera positif. Par contre, beaucoup de métiers d'intermédiation avec des gens qui se sont assis sur leurs propositions de valeur. Ce qui, si je le traduis en bon français, ils ont proposé des honoraires très chers pour une valeur ajoutée limitée. Ceux-là, à mon avis, vont être les premiers qui vont être remplacés par l'IA.
Bon. Thomas Grébin, c'est un peu ce que dit aussi assez Moglu, hein, le prix Nobel d'économie 2024 de mémoire, qui a publié récemment une étude. C'est évidemment complexe les effets de l'IA en fonction des agents, en fonction des secteurs, en fonction des métiers. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une apocalypse ? Oracle, je le rappelle, vient d'annoncer 30 000 licenciements du fait de l'IA. Enfin, ça, c'est un peu angoissant quand même.
Je ne sais pas s'il faut s'attendre à une apocalypse, et pour l'instant on ne le sait pas, mais c'est vrai qu'il y a par exemple une étude de la COFAS qui était intéressante, qui décomposait les métiers par type de tâches et qui montrait qu'il y avait quand même une partie significative des tâches qui pouvaient être substituées par l'IA.
Et donc, typiquement, étude angoissante, 5 millions d'emplois menacés d'ici 2030, hein, j'ai plus l'horizon en tête, mais
autour
quelques
de
16, années.
16% des emplois. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'études véritablement sur le marché du travail. Le papier du Figaro cite un article intéressant de Philippe Aguillon et de ses co-auteurs. Le problème de cette étude de Philippe Aguillon, c'est qu'elle porte sur des données qui datent d'avant ChatGPT, c'était sur des données qui ne sont pas sur l'IA générative. Donc ça, c'est quand même une très grosse limite pour comprendre ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer sur le marché du travail. Et l'autre limite, c'est que dans cette étude, ils montrent que les entreprises qui utilisent l'IA, en gros, deviennent plus productives et gagnent des parts de marché contre les autres entreprises, que Acemoglu avait aussi documenté avec une étude sur la robotique. Ceux qui utilisent la robotique deviennent plus productives et gagnent des parts de marché par rapport aux autres. Mais dans ce type d'étude, il n'y a pas l'effet sur l'emploi total, l'effet d'équipe générale, si vous voulez. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont gagner, d'autres qui vont perdre, mais on ne sait pas quel est l'effet sur l'emploi total. Et donc, c'est là où on verra dans quelques années si les prédictions des oracles n'ont pas fonctionné. Mais ce qu'on peut quand même...
Les prophètes de malheur ou de bonheur. C'est vrai qu'on ne sait pas de quel côté la pierre va retomber.
Mais en tout cas, ça change fondamentalement les usages. Ça va probablement faire des gains de productivité. Donc, si la demande n'augmente pas aussi fortement, le risque, c'est quand même des destructions d'emplois significatives, quoi.
Les précédentes révolutions technologiques, c'était moins d'embauches dans certains secteurs, parce que le secteur d'activité, ce que vous décriviez, va s'atrophier. Il fait des gains de productivité, il a moins besoin de travailleurs pour produire davantage. Et puis, en revanche, pas forcément de baisse totale du nombre d'emplois, même au contraire. L'histoire des métiers à tisser en France qui est célèbre. En fait, vous avez même des créations d'emplois au global, parce que plus de richesses sont créées avec ces gains de productivité, c'est en partie redistribué. Donc ça, c'est pour les précédentes vagues technologiques. On ne sait pas dans quelle mesure l'IA générative, je dis bien générative, parce qu'en effet, un certain nombre d'études étaient avant 2022, avant l'IA générative, on ne sait pas dans quelle mesure ça va modifier ou non ce modèle de révolution technologique. Il y a juste un point pour conclure sur lequel j'aimerais insister. On a au moins une certitude, c'est le rôle de la formation. Vous avez mentionné l'idée que les emplois allaient probablement se polariser en fonction des tâches. Ce qui est certain aussi, c'est que entre une entreprise et une autre, entre un secteur d'activité et une autre, et d'ailleurs ça s'applique aux organisations publiques aussi, ceux qui vont réussir à former les actifs pour s'approprier l'IA et donc réussir les gains de productivité auront un avantage compétitif. Et de même pour la formation initiale, l'esprit critique, la créativité, l'inventivité, tout ça, ça ne se prompte pas et donc l'école de la République a encore un rôle à jouer, malgré l'IA.
Le génie humain restera au cœur de l'histoire. Ce sera le mot de la fin de cette émission, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Merci Laurent Vronsky, merci Ryan Nézard et Thomas Grébin. Tout de suite, c'est Arrêt Défense, animé par Jean-Baptiste Huet. Quant à nous, on se retrouve demain, le nouvel horaire, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.